Toyota.
Oh, mais il est trop mignon ce bébé, il s'appelle comment ?
On hésite encore entre Léo et Théo.
Vous avez pas encore décidé ?
Non, on s'est dit qu'on allait prendre 6 mois pour réfléchir.
Profitez de plus de liberté grâce à la nouvelle Toyota Yaris hybride et son offre 6 mois sans engagement à partir de 199€ par mois. Portes ouvertes ce week-end.
Toyota.
Offre aux particuliers non cumulable permettant de restituer le véhicule entre le 31e jour et le 6e mois. Valable jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant pour la nouvelle Toyota Yaris hybride France 9 en LLD 37 mois 30 000 km. Voir toyota.fr.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
En juin 2020, Mediapart et Arte Radio ont récupéré et diffusé des enregistrements audio d'un groupe WhatsApp de policiers de Rouen qui partageaient sans complexe des propos racistes, antisémites, homophobes, sexistes et suprémacistes, vraiment hallucinants. Dans le même temps, le pure player Street Press révélait l'existence d'un groupe Facebook où plusieurs milliers de policiers s'échangeaient des messages tout aussi racistes et scandaleux. Quelques jours plus tard, le même média dévoilait l'existence d'un second groupe Facebook de la même teneur, comptant plus de 9000 membres, dont un grand nombre de policiers. Sur les violences policières, il y a eu bien sûr le travail quotidien de David Dufresne sur Twitter, puis la publication de son livre « Dernière sommation ». Enfin, la semaine dernière est sortie une enquête undercover du journaliste Valentin Gendreau, qui s'est engagé dans la police et qui raconte le quotidien d'un commissariat. Bref, on dirait qu'il ne se passe pas un mois, une semaine, sans que de nouvelles révélations apparaissent sur les violences physiques ou racistes au sein de l'institution. Dans la plupart des cas d'ailleurs, à la suite de ces révélations, la justice est saisie et certains fonctionnaires sanctionnés. La question que nous nous sommes posées aujourd'hui, c'est pourquoi faut-il que ces affaires sortent dans la presse ? Qu'est-ce qui fait que le linge sale n'arrive plus à se laver en famille ? Pourquoi la police ne réussit-elle plus à intervenir avant que les affaires soient révélées ? Comment, bref, en vient-on à balancer les dossiers à la presse, à devenir lanceur d'alerte ? On vous raconte donc aujourd'hui les dessous d'une révélation avec le brigadier chef Amar Ben Mohamed qui, en cette fin juillet 2020, décide de révéler toujours au même Street Press des centaines de cas de maltraitance et de racisme dans les cellules du tribunal de Paris, plus connu sous le nom de dépôt et géré par la police. Pourquoi a-t-il fait cela ? C'est un récit d'Émilie Chaudet.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Amar Ben Mohamed. Je suis policier depuis 20 ans à Paris, au sein de la préfecture de police de Paris. Je travaille de nuit depuis 20 ans. C'est un métier que j'ai choisi de faire, peut-être par vocation. Moi, franchement, c'est un truc qui me motivait depuis le début. Par contre, j'avais une période de doute à l'adolescence où je m'étais dit, tiens, j'aurais peut-être pas les épaules pour le faire, parce que c'est quand même assez violent, il faut s'opposer à des gens qui sont dans une dynamique de destruction des fois, etc. Et puis j'avais plutôt une nature assez calme, assez gentille, assez posée. Et je m'étais dit, est-ce que je vais être capable d'avoir le courage de rentrer dans l'art de personnes qui respectent plus rien, quoi. Et puis j'ai fait mon service militaire dans la police. Ça aussi, c'est un peu un concours de circonstances. À l'issue de mes études, et ça a été une révélation. J'ai rencontré des gens super, super bien. Donc du coup, on m'encourage à passer le concours, je passe le concours, je l'obtiens, et j'arrive en école de police. Je suis arrivé à Paris, et j'ai quasiment jamais quitté le rythme de nuit. Et je suis revenu en novembre 2016, au sein du dépôt de Paris, et j'ai été affecté directement au sein de l'unité des transferts en nuit. Quand j'arrive, je fais un état des lieux des personnes qu'il y a à transférer à Paris, Créteil, Nanterre et Bobigny. Donc moi, je distribue les rôles quand on arrive et on dit, écoute, telle équipe, tu en prends deux à Paris, tu complètes à Créteil et tu livres à Fresnes. Et après, tu reviens sur Bobigny et t'en prends cinq et tu vas au sein de la maison d'arrêt d'Ony dans le 95, ou tu prends les mineurs et tu vas à Porcheville dans le 78. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que H24, Paris, bah, c'est la ville dans laquelle se trouve le plus grand nombre de services de police. Et donc, il y a énormément de monde qui est présenté à tous les magistrats de Paris. Donc ce qui fait que quasiment en permanence, même si on a des périodes de creux, c'est une usine à l'intérieur. On avait ce qu'on appelle les cellules d'après-fouille, et ce sont dans ces deux cellules-là principales où on y mettait les personnes qui avaient déjà un mandat de dépôt et que les collègues de l'unité de transfert Montjour n'avaient pas pu transférer et qui étaient en attente que nous, on les prenne en charge et qu'on les dépose en maison d'arrêt. Donc des fois, ils étaient 3, 4, 5, ça allait, mais des fois, ils étaient 12, voire plus, parce que des fois, on avait des grosses journées judiciaires, donc il y avait énormément de monde à transférer. Et donc la mission des collègues de brigade du dépôt, c'est de les recevoir, on les palpe, on met leurs affaires de côté, on leur donne à manger, on leur donne à boire, ils ont le droit de voir un de leurs avocats, soit commis d'office, soit désigné pendant la nuit. Ils peuvent aussi voir un médecin. On commence à 22h30 le soir. À 22h40, l'appel avec la répartition des missions est faite. Et donc, 22h40, ils descendent. Et là, ils commençaient à rencontrer les difficultés. C'est-à-dire, on va dire, deux collègues principales qui étaient vraiment dans une logique de fonctionnement qui était agressive. J'ai commencé à voir qu'il y avait des choses qui n'allaient pas quand des nouvelles promos sortaient au printemps 2017. Et là, j'ai vu, parce que dans le même temps où elle sortait, il y avait eu beaucoup de mutations. Et donc là, quasiment les petits jeunes qui venaient d'arriver deux semaines, un mois avant, se sont retrouvés quasiment tout seuls, quoi. Je veux dire, l'encadrement était là, il faisait son boulot, mais ils ont eu une capacité d'agir qui était très grande, alors qu'avant, ben, on te dit non, tu fais pas ça comme ça, tu fais pas ça comme ça, et pour telle et telle raison, et on comprend. Et là, non, ça a commencé à s'installer progressivement. Alors, ces deux collègues féminines qui appartenaient à la brigade de nuit, donc ceux qui restent au sein du dépôt toute la nuit, en fait, hein, qui ne sont pas des transferments, sont fait remarquer parce qu'elles s'insultaient. « Connard, fils de pute, t'as qu'à mourir, va crever, je te donnerai rien, t'es qu'une merde, sac à merde. » Des fois, il y avait des crachats. Et les insultes racistes, moi, je les ai entendues, on va dire, peut-être deux mois après. Là, de façon récurrente. Et je me rappelle, une fois, je descendais et j'étais avec une collègue. On était à côté de la cellule numéro 1. Et donc, j'ai vu la collègue qui les insultait comme ça. Et je lui ai dit, mais t'arrives quoi, toi? Et je parlais à la collègue féminine. Elle dit, ouais, mais c'est eux, ils me font chier et tout, j'en ai marre. Ça me casse les couilles, ils me font tout chier, j'en ai marre. Moi, je te jetterais ça à la scène. Si on me laissait faire, je te leur réglerais... leur compte, on n'en parlerait plus. Et puis bon, j'ai des origines maghrébines. Et elle me parlait sincèrement. Franchement, je la regardais dans les yeux. Et elle me disait ça comme si j'étais blond albinos, quoi. C'était pas, comment dirais-je... Elle me considérait comme un collègue. Et en fait, le collègue n'a pas de couleur, n'a pas de peau. Et elle me dit, en fait, on est tous ensemble contre eux. Et quand j'ai entendu ce genre de choses, j'ai demandé de venir discuter un peu plus loin. Et donc je mettais quelqu'un d'autre à la ronde. Je lui dis, mais tu te rends pas compte que tu les aimes ou que tu les aimes pas, déjà on doit se comporter dignement. Je leur ai expliqué ce genre de truc, mes collègues leur ont expliqué ce genre de truc. Soit c'était oui, 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 mais ça recommençait presque tout de suite. Soit c'était non, je ferai ce que je veux, etc. Et ça a duré pas mal de temps. Dans ce que l'on a constaté avec ces deux filles-là et les quelques personnes qui les ont suivies de façon occasionnelle, c'est que c'était vraiment un torrent de haine. Mes collègues masculins et féminins me disaient « Non, c'est pas possible, c'est de la provocation au départ. » L'ancien dépôt du palais de justice de Paris était infesté de plein d'insectes. Donc des fois, on avait des puces, c'est vraiment des périodes comme ça, donc on le signalait. Par contre, le problème, et là, c'était endémique, quoi. C'est dû aux locaux qui ont des centaines d'années d'ancienneté dans l'ancien palais de justice. C'est que les canalisations sont reliées jusqu'à la Seine. Et en fait, des fois, on avait des rats qui sortaient des canalisations. Et pas des petits rats. Donc, les conditions, c'était des mauvaises odeurs. C'était l'obscurité, c'était la chaleur. Quasiment toute l'année, il faisait super chaud. Parce que le système d'aération ne fonctionnait pas. En fait, il était inexistant. Donc, dans les cellules où il y avait plusieurs personnes... là par contre c'était super compliqué, la température montait super vite et les gouttes d'eau arrivaient et les mecs nous disaient on veut pas vous emmerder, on veut pas vous faire chier, mais on peut pas respirer, quoi. Et c'est les collègues qui remontaient des fois en urgence en catastrophe et qui m'ont dit mais chef c'est pas possible, ils me disent la collègue elle ferme systématiquement la trappe, elle essayait de justifier en disant qu'il y avait une consigne qui disait de fermer les trappes mais pas de cette cellule, parce que c'est une cellule où il n'y avait pas de ventilation et les gens mais crevaient, on n'avait plus d'air au bout d'un moment. Et donc les collègues m'ont dit, voilà, regardez chef, il leur demande juste de l'eau, elle les insulte. Il leur demande juste quand est-ce qu'ils vont partir, ça part en live. Il y avait des provocations, ça venait devant la cellule en buvant un verre d'eau. Elles avaient la vingtaine à peu près, je dirais peut-être 20, 23, 25 ans. Pas très vieilles. Hein. L'une était mal aimée, elle s'entendait mal avec tout le monde. Et l'autre avait plus sa petite cour, son petit groupe. Voilà. Et elle était très bien vue par certains membres de sa hiérarchie dans sa brigade. Mais en l'occurrence, cette personne-là, la deuxième nana, était suivie par un petit groupe. On commence à 22h30. À 22h, quasiment tout le monde est au service, 22h10. Donc, on s'est mis en tenue, et après, on se retrouve dans la cour. Et donc, on se disait bonjour, on se faisait la bise, et puis on était contents de se voir, parce que, bah, par ailleurs, des gens étaient sympathiques. Donc, j'étais vraiment surpris, parce que leur langage, à ce moment-là, il était normal, vraiment. Leur comportement, normal, plus dynamique. C'est vrai que c'était des nanas qui étaient plus bruyantes que les autres. Mais au début, j'ai pas vu de grosses différences. Et en fait, j'avais l'impression de croiser quelqu'un d'autre, d'avoir pas la même personne que je croisais quand on était dans la cour et qu'on parlait de tout et de rien. Il y a eu une fois, je me rappelle, c'était, je crois, en hiver. La cellule, il y avait à peu près 12 ou 14 personnes dans la cellule numéro 1 de l'ancien palais de justice de Paris. Il était, je crois, minuit, un truc comme ça. La cellule était pleine. Les trappes avaient été volontairement fermées, contrairement à ce qu'on avait demandé, contrairement à ce que sa hiérarchie avait demandé. Elle l'a volontairement fermée. Les mecs étaient en train d'étouffer à l'intérieur. Et je vois un gros balèze qui tape à la porte. Mais le mec, il devait faire 2 mètres de haut, je crois, ou 1m95, je sais pas, 150 kilos. Il tape à la porte comme ça, sur la vitre, et je m'arrête vers lui, et j'ouvre la trappe, il me fait « merci, je respire ». Je lui dis « mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Et il me fait « monsieur, on a demandé de l'eau depuis une heure, on n'en a pas. On a demandé à manger, on n'en a pas. On comprend qu'il y a du boulot, mais on veut juste un peu d'eau, juste un peu de nourriture. Et là, tout ce qu'on entend, c'est « va te faire enculer, t'auras rien ». Tu partiras quand tu partiras, t'as qu'à crever. Et c'était ce soir-là, ça a été une insulte genre bamboula. Et dans la cellule, il y avait quelques noirs, quelques arabes, et il y a un truc qui avait blessé humainement. Un mec était au fond, et c'était un black. Et le mec, il m'a dit, chef, juste je vous le dis, quand on va partir, je vous le dis dans les yeux, vous allez ouvrir la cellule. Moi, je vais pousser la porte, je vais aller direct vers la fille, je la tue, je lui arrache la gorge, et après je re-rentre en cellule. Il m'a dit, je fais juste ça. Voilà. Et il était reparti, en fait, à force de se prendre des insultes, des réflexions, et c'est tout, il était reparti vers le fond de la cellule, je pense qu'il s'était mis à pleurer, et il y avait une réaction de groupe qui s'est solidarisée autour du gars. Et moi, j'ai pas eu 12 ou 14 criminels qui attendaient de tuer du flicard, c'est pas ça. J'avais 13 mecs, parce qu'il y avait des mecs dans la cellule qui étaient écœurés d'un truc, d'un comportement. Quand j'ai entendu ça, j'ai appelé mes collègues. On a arrêté le transfert qu'on était en train de faire. Et je lui dis OK. Donc on a ouvert la porte, on a laissé rentrer l'air. Et je lui dis OK, tu veux de l'eau, je te donne de l'eau. Tu veux à manger, on va emmener. C'est nous. Hein. Nous, normalement, on n'a pas à faire ça. On a filé ça, on a laissé 10 minutes, un quart d'heure la porte. On a dit écoute, on va faire les transferts sur Créteil-Nanterre. Parce que c'est urgent. Après, je reviens, c'est moi-même qui vais faire les transferts pour toi. Je crois que c'était du Fleury, un truc comme ça. Par contre, en attendant, tu bouges pas. Tu bouges pas, tu touches pas ma collègue, même si elle continue quoi que ce soit. Moi, je vais m'arranger avec son gradé. Et là, je suis allé voir son chef. Je crois qu'il y avait l'un des deux majors qui était là. Et je lui dis, je vous préviens, non seulement je vais écrire quand je reviens, mais si elle continue de faire ce genre de truc, je vous la mets elle-même dans une cellule à part. Hein. Et puis au bout de, on va dire, un mois et demi, là on est allé voir la regarder. Parce qu'elle se vendait ouvertement le matin quand elle finissait vers 6h30 dans les vestiaires féminins. Les filles m'en parlaient le soir ou après. Elle me disait, chef, elles se foutent de nous, elles se foutent de vous, parce qu'elles font toujours ce qu'elles veulent et elles disent qu'elles continueront, qu'il n'y a rien qui les en empêcheront. Donc moi et mes collègues, on a commencé à parler à leur gradé, donc à ce qu'on appelle des fonctionnaires brigadiers. Il y avait à cette époque-là un brigadier et il y avait un chef et deux majors. Donc c'est des gens que j'estimais et à qui j'ai dit voilà, il y a ça qui se passe. Et un jour, ça va aller super loin. Et c'est inhumain, c'est pas réglementaire et c'est pas légal. Alors, j'ai réellement eu en tête et j'ai réellement décidé de dénoncer ces faits quand je me suis rendu compte que toutes les interventions sincères de la part des gradés de la brigade de nuit du dépôt ne menaient à rien, n'étaient pas efficaces. C'est à ce moment-là que je me suis dit il faut passer à un autre niveau. Donc quand on est arrivé là, j'en ai parlé au délégué syndical, je lui ai dit écoute, fais quelque chose parce que je ne comprends pas, je n'y arrive pas. Et lui, il m'a dit qu'il a essayé pendant 2-3 mois, donc on va dire de décembre 2017 à mars 2018, de faire ça. Moi, je suis parti en vacances et après, on a déménagé dans le nouveau tribunal. Dans le nouveau tribunal, j'en ai parlé encore à la hiérarchie. Je leur ai dit maintenant, nous, on va écrire. Mes collègues veulent écrire, je vais écrire. Et vous savez, le système administratif, c'est dès que vous faites un rapport, il y a une transmission verticale, ça remonte. Et on m'a fait comprendre que les gradés allaient se retrouver dans la merde. Parce que non seulement ça durait depuis trop longtemps, non seulement les faits étaient super graves, ça y est, ils en prenaient enfin conscience. Vu la répétition des faits, vu les connotations racistes, le reste, etc., qu'il y a derrière et compagnie, on est sur un cumul d'infractions et on est sur des actes de torture et de barbarie. Donc là, j'ai dit, j'en peux plus. Donc ils m'ont dit, n'écris pas. On est mort si tu écris, si tes gars écrivent, parce que c'est mes gars et mes filles qui voulaient écrire. Il me dit, on est mort. Voilà. Donc en clair, vous savez, il y a ce côté esprit d'équipe, solidarité entre nous, etc. Mais je lui dis, mais on n'a pas envie de le faire, mais t'as rien fait. Moi, dans le même temps, il s'est passé un autre truc, c'est qu'on me signale des affaires de vol, en fait, chez moi, dans mon unité. On me dit potentiellement, enfin on me dit avec des preuves, j'ai deux personnes qui auraient commis un vol ou qui les commettraient de façon répétée. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça a mis un mois, c'était au mois d'octobre 2018, j'ai signalé les vols et j'ai signalé les débordements dans le même temps à l'officier qui venait d'arriver et j'ai eu les sanctions, les mesures vexatoires et punitives. La hiérarchie a considéré que j'étais devenu une gêne. Qu'est-ce qu'on nous a fait ? On m'a demandé d'écrire sur des choses qui étaient tout à fait normales, mais on cherchait la petite bête sur le moindre truc. Plein de choses avaient été promises par ma hiérarchie avant les signalements. Toutes m'ont été refusées. Des rapports de fourniture d'équipement, des rapports d'amélioration de fonctionnement du service, tout un tas de choses qui sont de l'ordre de l'évidence sont revenus avec avis défavorable. Et là-dessus, donc, on a eu ça. On a eu une stigmatisation. Vous savez, on travaille la nuit. Donc, en fait, par exemple, on commence à 22h30. Des fois, notre travail est fini à 3h du matin. Et donc, on rentre. Nos collègues rentrent pour manger, pour aller aux toilettes, pour aller lire un bouquin, pour faire autre chose. S'il y a du boulot en brigade, au dépôt, on va filer un coup de main. Eh ben non, systématiquement, dès qu'on rentrait, même des fois sans avoir le temps d'aller aux toilettes, on devait être employé sur des missions. Mais des fois, il n'y avait pas de mission. Et donc, on nous employait volontairement sur des postes où il n'y avait rien à faire pour qu'on ne puisse pas être tranquille. Mes signalements, par exemple, à l'IGPN ont été distribués à tout le monde. Donc, tout le monde savait qu'en fait, que j'étais ce qu'on appelle communément une balance. Donc, il y a plein de gens qui m'ont fermé leurs portes, qui me disaient plus bonjour. J'ai été insulté régulièrement par le commandant du dépôt. Ben Mohamed, j'en ai marre de ce connard, ce fils de pute, il m'énerve. Il croit qu'il va m'enculer, c'est moi qui vais l'enculer. Donc il disait ça dans les couloirs partout, dans les étages, au dépôt aussi, quand il redescendait. Et c'était un truc qui faisait énormément plaisir à ces personnes-là, les deux filles, plus le petit groupe qui les suivait, parce que c'était, comment dirais-je, une couverture de leur hiérarchie. J'étais devenu le gêneur pour la brigade N, parce que je leur avais mis, entre guillemets, la merde sous le nez. Ils ne l'avaient pas géré comme ils auraient dû le faire. J'étais devenu leur ennemi. Et c'était devenu clair que j'avais affaire à un front commun entre la hiérarchie, la grande hiérarchie, et la hiérarchie de la brigade. Ça m'a touché parce que je me suis dit, ils ne sont pas comme moi. Et normalement, je pensais que quand on était flics, on était tous honnêtes. Et là, ils étaient malhonnêtes. Leur comportement était celui de quelqu'un de malhonnête. Donc du coup, j'ai commencé à être plus vigilant. Donc j'arrivais encore plus tôt au travail pour essayer de préparer et pas avoir de mauvaises surprises dès que je faisais ma relève. Je prenais moins de vacances. J'ai décidé d'en parler en dehors de l'institution à mon avocat. J'ai tout donné les détails et il m'a dit « Là, ils essayent d'avoir votre peau. » Et on a les éléments factuels factuelles dans le dossier, qui établissent qu'il y a une entente entre plusieurs majors, plusieurs gradés de la brigade de nuit et plusieurs officiers, et bien au-delà, qui ont décidé de tout faire pour m'affaiblir, me faire craquer, me discréditer. Et là, notamment, donc, c'était début juillet, j'avais un rendez-vous devant le psy. Et à ce moment-là, donc, je suis allé voir mon médecin et il m'a dit « c'est pas bon, tu as une forte tension, il faut que tu te mettes en arrêt ». Problème gastrique, donc souvent ils me disent bah, c'est lié, en fait il y a des événements que tu digères pas, hein, donc c'est aussi simple que ça, et donc syndrome gastrique aigu, il m'a dit il faut que tu te mettes en arrêt, ta tension est élevée, et j'avais une fièvre qui durait depuis 3 mois, mais même en arrêt maladie ils ont voulu que j'aille, comment dirais-je, devant le psy. C'est punitif, et en fait c'est ce qu'on appelle le détournement de la médecine statutaire pour vous désarmer, pour vous affaiblir. C'est un abus de pouvoir quand on utilise la médecine statutaire là-dessus. Et au pied du mur, donc là, à partir de ce moment-là, il faut qu'on parle aux journalistes. Les textes concernant les dispositions relatives au cadre de mise en action du statut de lanceur d'alerte disent que lorsque vous avez essayé de signaler les choses en interne et à de multiples reprises, et moi, c'est un cas d'école, quoi, que en plus ça ne donne rien, que vous l'avez fait de façon officielle en interne, ça ne donne rien, qu'en plus vous subissez des manœuvres qui consistent à entraver la manifestation de la vérité, et en plus que vous subissez des réponses qui sont vexatoires, punitives, du harcèlement, etc., bah, à partir de là, vous êtes autorisé de par la loi organique européenne, hein, qui est retranscrite en 2021 en France, à signaler cela à la presse, aux médias, pour porter à la connaissance des institutions supérieures, judiciaires notamment et administratives. Donc quand Street Press sort l'article, le lundi matin, ils me font comprendre que le ministère et la préfecture demandent de repousser la sortie de l'article, sachant que là aussi on a été honnête avec eux, on les a prévenus 3 jours avant. Et j'étais pas bien, j'étais pas confiant, je m'étais dit, mais c'est le monde entier qui va s'abattre sur moi, quoi. Et parce que j'ai appréhendé, quoi. Je me suis dit, tu vas être pris pour un traître, pour une balance, pour un mec qui salit. Donc ça a été une tourmente. Et après, au bout de 2 jours, quand vraiment j'ai reçu des messages de soutien, là, ça a été un soulagement. Et puis, il y en a d'autres qui disent pas bonjour, déjà. Il y a ceux qui vous, pareil, dans le regard, vous montrent qu'ils n'approuvent pas. Ça va, c'est une minorité, c'est pas la majorité. Et puis il y a ceux qui ont la haine carrément parce qu'ils savent qu'ils vont passer à la trappe, ou en tous les cas qu'ils vont se faire attraper parce qu'ils n'ont pas rendu compte, ils ont cautionné, ils ont laissé faire, et puis ils ont participé à l'entreprise de harcèlement pendant plus d'un an et demi sur moi. Alors en fait, quand je suis revenu, j'ai fait mon appel, j'ai repris le service tranquillement. J'ai dit, écoutez les gars, on fait le boulot, puis point. Après, on passe un moment, on boira le café ensemble et tout. Et puis, je redescends dans le bureau, au moins 2. Et à ce moment-là, il y a mes collègues féminines qui viennent me voir. Chef, vous pouvez nous donner les armes, puisque c'est moi qui ai les clés des armes. Et donc, je dis, ouais, pas de problème. Et donc, je demande les clés à mon collègue gradé de brigade et il me dit non. Je dis, ok, pourquoi ? Et là, il y a le major qui est le major de l'entité nuit qui me dit « t'es désarmé, tu peux plus avoir accès ni à l'armoire ni aux clés ». Sauf qu'il y avait peut-être une dizaine de personnes dans le bureau à ce moment-là. Et si vous voulez, quand on désarme un fonctionnaire, il y a 2 choses qui se passent. C'est d'abord, on le prend à part, sauf s'il y a une urgence. Hein. Il pète un câble, un truc comme ça. Mais quand tout se passe bien, bah, on le prend à part dans un bureau. Et donc, on te dit qui l'a décidé, pourquoi et pour combien de temps. Mais là, on me dit pas ça à part, on me dit ça devant tout le monde, on m'explique pas qui, parce que j'ai demandé qui a pris cette décision, on me dit je sais pas, je lui dis pour combien de temps, on me dit je sais pas, et je lui dis pourquoi, on me dit je sais pas. Bah moi j'étais en train de faire un truc pour régler ma lumière en fait sur le bureau, bon bah j'ai dit ok, j'ai dit voilà je vais pas faire d'histoire, je reste positif, constructif, je me doute bien qu'il y a des gens qui aimeraient bien qu'il y ait des incidents, quoi que ce soit, donc je dis rien, je dis ok, mais donc moi je continue ma nuit. Et en fin de nuit, les collègues viennent me voir, et le lendemain, et les autres jours, et ils me disent « Mais chef, c'est pas normal ». Et il y a un collègue gradé, il vient me voir, il me fait « Marre, c'est pas normal ». Il lui dit « Quand t'es gradé, en plus dans le bureau avec tout le monde autour, on te dit pas t'es désarmé, quoi ». Et ma mère m'a dit, Amar, t'aurais pas dû parler. Elle m'a dit, t'aurais dû partir. Elle m'a dit, tu vas pas gagner, ça sert à rien. Et elle m'a dit, je sais que tu dis la vérité, je te crois, il n'y a pas de souci. Mais c'est le pot de fer contre le pot de... C'est, ouais, pot de terre contre le pot de fer. Et elle s'inquiète, en fait. Et je lui dis, mais maman, je sais, mais là, il faut que je le fasse. J'en ai jamais parlé à la famille. La famille l'a découvert toute seule, parce que je voulais pas les inquiéter quand on mangeait ensemble le dimanche, ou quand on se voyait un peu pendant les vacances. Je leur ai toujours dit, ça se passe bien au boulot, t'inquiète pas, patati. Et la famille a découvert, et ils en ont parlé à ma mère, et ma mère a dit qu'elle avait peur, parce qu'elle se dit, il y a des gens qui sont fous aussi. Hein. Pour faire ces conneries-là, faut pas être bien dans sa tête. Et ils sont armés. Eux, ils ont jamais été désarmés, par exemple. Vous voyez. J'ai tenu du harcèlement pendant 2 ans et demi, j'ai tenu bon, etc. J'ai jamais fait une insulte, rien du tout, ni un mouvement de colère. J'ai été désarmé, on m'a envoyé 2 fois chez le psy. Et d'autres ont commis des trucs de l'ordre de l'acte de torture et de barbarie, ils n'ont jamais été désarmés.
Ces deux jeunes femmes, elles sont où aujourd'hui ?
Ces deux jeunes femmes, donc, de ce que j'en sais, et puis la bande qui les suivait, le petit groupe, ont été mutés au 1er septembre 2019, à leur demande, hein, dans les services parisiens ou en banlieue. Et la fermeture de mon unité, donc, elle a été demandée donc, par la hiérarchie du dépôt, fin juin. Donc là, c'était le dernier recours pour eux, c'était de fermer l'unité, comme ça, entre guillemets, je me retrouverais sous les ordres de ceux de la brigade, les gradés de la brigade, qui ont, comment dirais-je, pendant des années laissé faire.
Et si votre unité est supprimée, vous, qu'est-ce que vous êtes amené à devenir ?
Franchement, là, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, j'ai eu la reprise du boulot parce que ça me manquait. Mes collègues me manquaient. Et là, si l'unité est supprimée, je sais qu'il y aura eu la volonté de me faire partir. Donc déjà, fierté, il est hors de question que je leur donne satisfaction.
Donc vous n'envisagez pas une seconde de quitter la police ?
Ah non ! Alors, certainement pas. Je resterai, l'unité sera supprimée, mais je resterai sur la brigade du dépôt. Il est hors de question que je parte. Non, j'ai compris leur manœuvre. Pendant longtemps, si vous voulez, j'ai courbé les chines, j'ai voulu jouer, comme je vous l'ai dit, aménager la chèvre et le chou en essayant de couvrir l'administration, ma hiérarchie et de préserver les valeurs et tout. Ça marche pas. J'ai une hiérarchie qui était complice de ça, qui m'a écrasé, qui a essayé de me détruire. Maintenant, il est hors de question. C'est fini. Il y a ce truc plus général de tradition du silence, d'omerta. Et l'omerta, c'est pour la mafia, c'est pas pour la police. Donc chez nous, la loi du silence, non, pas pour ça.
C'était Maltraitance policière, en finir avec le silence, un reportage d'Émilie Chaudet réalisé par Cécile Lafont. Merci à Amar Ben Mohamed et à Arié Halimi, c'est Mélissa Foust, attachée de production des Pieds sur Terre.